Bonjour à tous et bienvenue sur la première édition d'un nouveau cycle de podcasts du Centre de gastronomie historique. Dans cette série, nous vous proposerons de découvrir chacun des membres administrateurs du Centre qui vont tour à tour présenter un de leurs sujets de prédilection. C'est l'historien Pierre Leclerc qui va prendre la parole aujourd'hui sur un sujet qu'il anime depuis quelques années déjà, les grands mythes de l'histoire de la gastronomie. Ces mythes, il en a déjà décortiqué quelques-uns à l'antenne de la RTBF dans l'émission Un jour dans l'histoire, qui est bien entendu à réécouter sur Ovio. Et je ne peux pas ne pas mentionner l'histoire à pleines dents, sa toute nouvelle mais déjà très active chaîne YouTube consacrée à l'histoire de la gastronomie. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Dis-moi, qu'est-ce que tu entends par mythe dans le contexte de l'histoire de la gastronomie ?
Alors évidemment, hein, quand on prononce le mot mythe, bah, il se bouscule hein, instantanément dans notre mémoire. Bon nombre de dieux et de héros qui hantent les récits fantastiques, imaginaires, poétiques, remontant à des temps immémoriaux. On pense à Zeus et à son Panthéon, à Gilgamesh et à son épopée, Adam et Ève, Isis et Osiris, et tous ont raconté les mystères des origines, de la finalité ou de l'organisation de notre univers. Eh bien, les mythes de l'histoire de la gastronomie n'appartiennent pas à cette catégorie mère. Ils sont, par extension du sens premier, des évocations relatant des faits ou mentionnant des personnages ayant une réalité historique, mais transformée par la légende. Les mythes de la gastronomie sont donc ancrés dans une histoire bien réelle. Mais pour accéder au statut de légende, une histoire doit être largement partagée et relayée par la littérature, par la presse, par le cinéma, par Internet ou par les conversations. Bref, elle doit faire partie de la culture générale d'une communauté qui s'y reconnaît d'une façon ou d'une autre.
Et oui, en effet, pour qu'il y ait mythe, il faut une construction d'un discours autour de la gastronomie. Et je suppose que tout ça ne date pas d'Escoffier.
Ben non, bien sûr. Hein. Aussi loin qu'on puisse remonter dans le temps, l'histoire de la gastronomie se confond avec celle des mythes. L'histoire de la gastronomie est née de la plume des humanistes du XVIe siècle, qui se sont logiquement largement inspirés des anciens et essentiellement des auteurs latins, Caton, Pline, Tite Live, et qui ne sont franchement pas les plus cools de tous les auteurs de l'Antiquité. Et justement, ils se sont fortement offusqués des débordements sensuels de leurs contemporains et se sont efforcés de donner une explication à cette honteuse corruption des mœurs. Ils ont trouvé la réponse à leurs interrogations dans la fascination manifestée par les fastes épulaires orientaux à la suite des grandes conquêtes d'Alexandre le Grand et des légions romaines. La goinfrerie, la sensualité et l'apathie étaient donc vues comme des vices venus d'ailleurs. Et de la même manière, les humanistes du XVIe siècle, tels que l'Allemand Heinrich Cornelius Agrippa, petite parenthèse, les fans d'Harry Potter le connaissent bien parce qu'il figure sur une carte choco-grenouille. Elle est très rare, donc si vous l'avez, attention. Et l'Italien Tommaso Garzoni, pétri à la fois de culture chrétienne et de culture classique, condamne la gloutonnerie, l'ivrognerie, ainsi que tous les raffinements de table excessifs et dispendieux. Donc, leur histoire de la cuisine suit un chemin parfaitement linéaire, d'une facture simple, saine et naturelle des premiers temps de l'humanité, l'alimentation humaine n'aurait cessé de gagner en somptuosité au cours des siècles, menaçant les hommes d'un danger à la fois sanitaire et moral. La haute cuisine sophistiquée et pernicieuse serait née en Orient et se serait propagée progressivement vers l'Occident en corrompant tout le monde sur son passage. Chez les auteurs romains, les exemples improbables d'excès de bouche ne manquent pas et les humanistes les reprennent tels quels, parfois naïvement, hein, pour mieux frapper les esprits. On cite par exemple Albinus, gouverneur de Gaule, qui dévora pour un souper, sans pêche, 10 melons, 500 figues sèches et comme il avait encore une petite faim, hein, 300 huîtres.
La fameuse hubris orientale, ça c'est un topos littéraire que je connais bien. Et je suppose que comme dans l'Antiquité, ça a entraîné de nombreux discours pour le moins caricaturaux. Mais dis-moi, que fait-on au sein de cette progression linéaire de l'histoire de la cuisine de tout le Moyen-Âge ?
Ah là, en bon humaniste qui se respecte, ces auteurs ont fait l'impasse complète sur ce qu'on nommait dédaigneusement le medio tempore, à savoir le Moyen-Âge, en transposant directement les présumés vices antiques à leur époque. Et par la suite, au XVIIIe siècle, les auteurs des Lumières, qui sont nettement influencés par les humanistes, poursuivent cette logique de progression des arts culinaires d'Est en Ouest, en désignant les Italiens responsables de la corruption des mœurs françaises. C'est ainsi qu'en 1719, dans le traité de la police, que Nicolas de la Mare est à l'origine du plus tenace des grands mythes de l'histoire de la gastronomie. Il s'agit de celui de Catherine de Médicis, reine noire à la funeste réputation, qui vient en France avec sa brigade de cuisiniers italiens afin de semer le trouble dans la saine aristocratie française du XVIe siècle. Aujourd'hui, nous savons que la maison de Catherine de Médicis n'a jamais comporté le moindre cuisinier italien et ce mythe était donc totalement imaginaire, ce qui n'empêche pas d'être repris et amplifié par la suite, notamment par Denis Diderot, ardent détracteur des raffinements de la nouvelle cuisine française dont il rend la reine responsable. Il est également repris par son contemporain Meunier de Kerlon, qui lui, par contre, est un fervent défenseur de cette même nouvelle cuisine et qu'il considère comme un progrès plutôt que comme une déchéance. Ainsi, la fortune du mythe est faite. Qu'on abhorre ou qu'on célèbre les plaisirs de la gastronomie française, tout le monde voit en Catherine de Médicis sa grande initiatrice.
Mmh. Donc, jusqu'ici, on dirait qu'on se soucie de parler des pratiques alimentaires du passé, surtout pour appuyer des idées reçues sur les bonnes ou les mauvaises mœurs. Quand voit-on émerger des études un peu plus scientifiques et surtout, est-ce qu'une démarche plus scientifique est exemple de la construction de nouveaux mythes ?
Eh bien, après avoir débuté assez maladroitement et après avoir répondu à des préoccupations essentiellement morales, l'histoire de la gastronomie entre dans la sphère scientifique au sens moderne du terme par le biais de la philologie et de l'archéologie naissante. Tandis que les pères de l'archéologie du XVIIIe siècle, tels que Anne-Claude Philippe de Caylus ou Pierre-Clément Grignon, s'intéressent aux objets de la table, des passionnés de littérature médiévale comme l'anglais Samuel Pedge ou le français Pierre-Jean-Baptiste Le Grand aussi, exhument des textes culinaires médiévaux complètement oubliés et jettent les bases d'une première histoire de la gastronomie chronologiquement complète et dite sérieuse. Toutefois, la science est en fait de constantes remises en question, les vérités les plus assurées autrefois peuvent perdre de leur pertinence au cours du temps. Il arrive ainsi qu'une vérité scientifique, issue d'une solide thèse élaborée par un chercheur sérieux, répandue dans la culture populaire grâce à un bon travail de vulgarisation, soit remise en question plus tard par d'autres chercheurs sur base de nouvelles découvertes ou de nouvelles analyses.
Tu peux nous donner quelques exemples de ces études anciennes ?
Eh bien, il y a, par exemple, il y en a pas mal, il y a l'histoire de la fourchette, élaborée au cours du XIXe siècle par des historiens de l'art et qui situe l'invention de la fourchette à Byzance au Xe siècle. C'était une hypothèse plausible au début du XIXe siècle et elle ne l'est plus du tout aujourd'hui. Et pourtant, l'information, elle, continue à circuler. C'est également le cas de l'histoire du pain, établie à la fin du XIXe siècle par un sociologue de l'alimentation et qui rend une ménagère égyptienne anonyme responsable de l'invention du pain levé. Aujourd'hui, on sait très bien que le pain levé est beaucoup plus ancien. Mais cette première information, elle, continue à circuler dans le public. Autre exemple encore, l'histoire des épices censées camoufler le goût des viandes pourries au Moyen-Âge, hypothèse issue de l'école historique anglo-saxonne La New History au début du XXe siècle et aujourd'hui complètement dépassée. Et pourtant, cette histoire de viande pourrie et d'épices, elle circule encore beaucoup, beaucoup dans le public.
Mais oui, je suppose que le grand public qui n'a pas forcément accès à ces études continue à croire à l'histoire première et ignore qu'elle est passée tout à coup du statut scientifique au statut mythologique.
Oui, tout à fait. Et ajoutons également qu'à l'époque du développement de cette méthode scientifique, ce sont également les démarches de construction des histoires nationales qui propagent et alimentent toute cette mythologie. Les histoires nationales recourent abondamment aux gloires militaires et aux héros pour mettre en lumière la grandeur d'une nation. Et c'est dans ce cadre qu'émergent les mythes de la gastronomie résolument fantaisistes, mais particulièrement flatteur et plaisant. Bon, dès la fin du XVIIIe siècle, en Autriche, on prétend que la pâtisserie viennoise en forme de croissant a été créée par les pâtissiers viennois au lendemain de la défaite de l'armée ottomane qui a entrepris le siège de la ville en 1683. D'après cette légende, les pâtissiers qui travaillaient la nuit auraient entendu les soldats turcs creuser un tunnel sous la ville et auraient donné l'alerte, sauvant ainsi la cité de l'invasion. En guise de remerciement, les autorités municipales leur auraient accordé le privilège de confectionner une pâtisserie en forme de croissant, emblème du drapeau turc. Alors, bien que totalement imaginaire, cette histoire a connu une immense renommée internationale. Autre exemple, au début du XIXe siècle, la vie bien remplie d'Antoine Parmentier inspire une invraisemblable mythologie de la pomme de terre et fait de Parmentier l'initiateur de la pomme de terre en France, en Europe et même dans le monde. Et on ira même jusqu'à raconter que Parmentier a inventé la pomme de terre. Donc là, il faudra un peu qu'on explique comment on peut inventer de la pomme de terre. Mais le mythe est tellement fort qu'on y croit, qu'on finit par croire à ce genre d'histoire. En 1840, il est question de la guerre de 7 ans. Dans le mythe de l'invention de la mayonnaise, suite à la victoire, encore une histoire de victoire, du maréchal de Richelieu sur les Anglais à Port-Mahon. Donc Mahon, mahonnaise, mayonnaise, tout ça finalement est très logique. Dans une deuxième version du mythe, on célèbre plutôt la victoire du maréchal de MacMahon sur les Autrichiens lors de la campagne d'Italie de 1869. Ben voilà, MacMahon, mahonnaise, mayonnaise, c'est un peu le même principe. Tout cela, évidemment, est totalement fantaisiste. On peut encore citer le poulet à la Marengo qui aurait été inventé sur le champ de bataille de Marengo, grande victoire du premier consul Napoléon Bonaparte. Cette incessante intrusion de la guerre dans la gastronomie trouve d'ailleurs un témoignage amusant dans ce mot d'enfant repris par un journaliste de l'époque. « Ah, papa, quand je serai cuisinier, je donnerai à chaque mets le nom d'une des batailles que nous avons gagnées. Je ferai un dîner tout en victoire.
» Donc, au XVIIIe et au XIXe siècle, on peut dire qu'il y a un courant de mythes que l'on pourrait dire héroïques. On ressent le besoin d'associer tel ou tel plat à un événement marquant ou à un grand personnage ?
Oui, et dans le courant du XIXe siècle, on peut aussi parler de mythes anecdotiques. Les érudits de salon se prennent de passion pour l'histoire anecdotique, mettant en scène les grands personnages historiques. Au milieu du siècle, on attribue au marquis de Béchamel l'invention de la béchamel. Au régent, l'invention du pain à la d'Orléans. Au roi de Pologne, Stanislas Leczinski, celle du baba au rhum. Et à sa fille et reine de France, Marie Leczinska, épouse de Louis XV, celle des bouchers à la reine, etc., etc. Et ces histoires sont assez peu élaborées, et la plupart de ces mythes ne prennent jamais la forme d'histoires vraiment consistantes. Il y a tout de même une exception, c'est celle de la crème chantilly inventée par François Vatel au cours de la fête de Vaux, racontée par le pâtissier Pierre Lacam dans les années 1890, et qui remporte un immense succès qui ne s'est jamais démenti jusqu'à nos jours. Et ce phénomène d'invention de mythes anecdotiques continue de nos jours. La légende de la fameuse sauce lapin liégeoise, attribuée à une prétendue Madame Lapin, n'est apparue qu'en 2009. Ce qui nous donne d'ailleurs une occasion tout à fait unique d'observer de près le phénomène de l'émergence de la propagation d'un mythe.
Et oui, l'élaboration de nouveaux mythes n'appartient pas nécessairement à un passé lointain. Au XXe siècle, on pourrait presque dire que ces mythes anecdotiques, comme tu les appelles, prennent la forme de mythes touristique.
Ah oui, et au XXe siècle, l'histoire anecdotique de la gastronomie trouve un écho très favorable dans le développement des cuisines régionales et du tourisme culturel. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, des régions s'arrogent l'exclusivité de certaines spécialités culinaires dont elles revendiquent la paternité. C'est ainsi qu'en Flandre, on revendique l'invention du hoche-pot, un plat typiquement espagnol. Les guides touristiques de la commune de La Motte-Beuvron, quant à eux, affirment que leur ville est le berceau de la fameuse recette de tarte que les sœurs Tatin auraient inventée par accident. Et il est évident que ce courant régionaliste ne peut qu'aboutir à des conflits de paternité. Et le plus retentissant d'entre eux oppose la France et la Belgique à propos de l'invention de la frite. Affaire qui continue à faire couler beaucoup d'encre encore aujourd'hui. Le mythe de Marco Polo et des pâtes, quant à lui, est un drôle de mélange. Hein. Il s'agit d'une élaboration d'un héros national, c'est-à-dire l'Italien Marco Polo, mais par une autre nation, les États-Unis, dans le but de mettre en lumière le patrimoine culinaire chinois, afin de discréditer le patrimoine culinaire italien dans le cadre d'une véritable guerre commerciale entre fabricants de pâtes italiens et fabricants de pâtes américains. Et poussé par la puissance médiatique américaine, il est probablement le mythe de l'histoire de la gastronomie le plus répandu dans le monde.
Donc si je comprends bien ta démarche, ce n'est pas de détricoter ces mythes afin d'aboutir à la bonne recette ou au vrai créateur d'un plat. Ce sont les mythes en soi, le contexte dans lequel ils prennent forme et les raisons de leur postérité qui t'intéressent.
Oui, car ces différents mythes mettent en lumière les fascinations, les désirs, les orgueils et les faiblesses de nos sociétés. Les mythes reflètent parfaitement le contexte culturel dans lequel ils sont nés, tout comme celui dans lequel ils se sont épanouis. Et à cet égard, ils sont de précieux témoins de la sensibilité de nos ancêtres au fil du temps.
Le Belge n'a donc pas inventé la frite.
Ben non. Et ben, d'ailleurs, hein, la fierté nationale est sans aucun doute un des principaux sentiments inspirateurs de mythes. Ainsi, la célébration de grandes victoires militaires par des créations culinaires n'est pas rare, comme nous venons de le voir. De même que la mise à l'honneur d'un compatriote remarquable ou d'un citoyen anonyme élevé au rang de génie populaire et national, bien entendu. Il est évident qu'on résiste difficilement à la fascination qu'exercent sur nous les héros dont les exploits amplifiés par des hagiographes zélés nous impressionnent. C'est ainsi que nous attribuons à ces personnages toutes les vertus et même tous les vices, pourvu que cela décuple leur inventivité culinaire. On l'a vu avec Parmentier et les pommes de terre, Marco Polo et les pâtes, et les fameuses pommes de terre frites qui auraient été inventées au bord de la Meuse par des Belges, bien entendu. Et l'idée même de l'invention ou de l'innovation est à ce point enthousiasmante qu'elle a elle aussi engendré de nombreux mythes. Il est difficile d'imaginer qu'une recette géniale, que l'introduction d'un ingrédient ou d'une pratique ne soit pas le résultat d'une intervention spontanée d'un personnage lui aussi génial. Il nous est tout aussi difficile de ne pas faire endosser au hasard ou à l'accident une grande part de responsabilité dans cette intervention. En plus, le recours à ce type d'histoire simple et plaisante hein, nous fait l'économie de l'analyse fastidieuse, de l'évolution lente et complexe qui aboutit aux recettes que nous connaissons aujourd'hui. L'orgueil d'appartenir à une civilisation supérieure aux précédentes a également inspiré de nombreux mythes qui nous flattent dans notre conviction de maîtriser les codes du bon goût les plus aboutis, les codes du savoir-vivre les plus raffinés et les règles économiques les plus épanouissantes. Ils nous confortent dans notre vision d'une histoire linéaire dont le progrès ne cesse de nous élever et nous garantissent un mode de vie bien plus enviable que celui de nos malheureux ancêtres. Par exemple, le mythe de la fourchette, le mythe des épices et de la viande au Moyen-Âge ou le mythe du pain de la paysanne égyptienne. On peut aussi constater que les mythes n'apparaissent pas toujours très longtemps après les faits. Deux ou trois décennies suffisent amplement pour embrumer les mémoires et faire naître une histoire parfois très éloignée de la réalité. Il est évident que la plupart de ces belles histoires n'auraient pas résisté à des vérifications relativement simples dans des sources d'informations facilement accessibles. Les invraisemblances, les anachronismes et autres incohérences habituelles auraient volé en éclats depuis longtemps si la négligence coupable de beaucoup d'auteurs n'avait permis aux nombreux mythes de se répandre d'ouvrage en ouvrage sans le moindre recours aux indispensables sources. D'un autre côté, la plupart de ces belles histoires n'auraient pas survécu si l'ensemble de la population obéissait aux lois strictes et sévères de la science et de la critique historique. La fantaisie et la mythologie ne font-elles pas joyeusement partie de nos vies ? Peut-être même nous sont-elles indispensables. C'est probablement pourquoi les mythes qu'elles engendrent nous ressemblent tant. Décidément, non, les mythes ne mentent pas, ils nous parlent de nous.
Merci Pierre. Et merci à tous d'avoir suivi ce premier podcast. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et sur notre site centredegastronomiehistorique.com. Et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.